bienvenue dans ce deuxième numéro de La Clé des Champs, l'émission géographique et écologique de Transistor. Nous sommes ce soir en direct du studio de l'ENES pour parler des déchets nucléaires avec notre invité Bertrand Nouvelot, membre du groupe lyonnais de Greenpeace et spécialisé dans la question du nucléaire. Bonjour.
Bonjour.
Bertrand Nouvelot, on va se demander avec vous quel est l'avenir de nos déchets nucléaires et quel danger ils représentent. Mais avant cela, on fait tout de suite un petit point sur la situation.
Oui Mathilde, faisons le point. Pourquoi parle-t-on des déchets nucléaires aujourd'hui ?
Alors, on en parle parce que le rapport que Greenpeace a rendu le 30 janvier nous rappelle la véritable crise mondiale qu'il constitue. L'industrie électronucléaire génère des déchets à chaque étape du processus. Lors de l'extraction de l'uranium, qui provoque entre autres des dégagements de gaz radon, lors du traitement de l'uranium, en 2011, c'est 2,3 milliards de boues radioactives très fines qui ont été générées lors de cette étape, et lors de l'enrichissement de l'uranium, qui laisse derrière lui 1,7 milliard de tonnes d'uranium appauvri dont on ne sait pas quoi faire. Le résultat de cette industrie, ce sont 250 000 tonnes de combustible nucléaire usé, hautement radioactif, réparti dans 14 pays différents, sans compter les 12 000 tonnes qui s'y ajoutent chaque année, provenant des réacteurs actuellement en fonctionnement. Tous ces chiffres, ça nous évoque beaucoup de déchets, dont on ne sait que faire, mais pour mieux comprendre la mesure du problème, il faudrait d'abord savoir précisément ce que sont ces déchets nucléaires. Bertrand Nouvelot, est-ce que tous les déchets provenant de cette industrie sont-ils tous autant dangereux les uns que les autres? Est-ce qu'il y a différents niveaux de dangerosité?
Alors, tous les déchets n'ont pas effectivement la même dangerosité, ils ne sont pas tous aussi radioactifs les uns que les autres. Vous avez ce qu'on appelle des déchets de très faible activité qui peuvent être issus de manipulations dans l'industrie nucléaire, style des combinaisons, des gants, des choses comme ça, bon, qui ont quelques traces, mais qui ne vont pas être radioactifs de manière très forte et pendant un temps très court. À côté de ça, vous avez aussi le combustible usé, qui lui est constitué d'uranium, de plutonium et de produits de fission. Donc là, effectivement, on est en présence de déchets extrêmement radioactifs qui vont rester radioactifs pendant, à une échelle, on va dire, géologique, quasiment, et qui présentent des dangers bien supérieurs, évidemment. Et donc, tous ces déchets sont classés en différentes catégories, très faible activité, moyenne activité, et puis, bien sûr, haute activité.
Et donc je suppose que leur traitement est aussi différent en fonction justement de ces niveaux de dangerosité. Par exemple, les déchets à très faible radioactivité, est-ce qu'on les rejette dans la nature? Est-ce qu'on les surveille encore un petit peu?
Alors, les rejets de déchets radioactifs, oui, ça a eu lieu il y a quelques décennies. À une époque maintenant lointaine, heureusement, des fûts étaient largués dans la mer. Et d'ailleurs, Greenpeace avait participé à dénoncer cet état de fait. Et grâce aux images qui avaient pu être tirées donc de ces fûts balancés à la mer, effectivement, on a pu faire stopper ces rejets. Et donc, aujourd'hui, on ne rejette plus de déchets radioactifs dans les océans. Par contre, effectivement, du coup, tout est à terre. On va avoir des lieux de stockage différents. Alors vous avez des lieux de stockage dans l'Aube, dans le centre, enfin on va dire nord-est de la France, où là, alors je crois que c'est les déchets de très faible activité, de faible activité. Vous avez aussi le site de La Hague, où là on a des déchets un petit peu plus virulents là, qui sont stockés, mais le problème c'est que tous ces lieux de stockage, à très court terme, vont être saturés. Autre lieu qui est saturé aujourd'hui, ce sont toutes les piscines de désactivation. Vous savez qu'à côté de chaque réacteur qui est en fonctionnement, vous avez ce qu'on appelle une piscine de désactivation. Alors cette piscine, elle sert à quoi? Elle sert à stocker le combustible neuf ou usé dans l'eau. Alors pourquoi dans l'eau? C'est pas compliqué à comprendre, c'est qu'en fait l'eau apporte une protection contre les rayonnements. C'est pour ça que toutes les manipulations de ces combustibles sont faites sous eau. Et ces piscines aujourd'hui, eh bien, elles arrivent quasiment à saturation. Si on prend les inventaires de l'ANDRA, qui est donc l'Agence Nationale des Déchets Radioactifs, tous les 3 ans, ils publient un inventaire, et on voit bien que quand on regarde la quantité de radioactivité qui est stockée dans ces piscines, alors elle augmente de 3 ans en 3 ans, mais sous forme d'asymptote, parce que très clairement, la piscine est quasiment pleine, quoi. Et ça, c'est vrai pour tous les réacteurs qui sont exploités en France. Donc on va arriver à un moment où effectivement on va plus savoir où mettre ces déchets et on risque même de bloquer la machine parce que si les piscines sont pleines, ça veut dire qu'on peut pas ressortir le combustible usé du réacteur et du coup on risque de bloquer le système.
Alors, est-ce qu'il existe d'autres moyens de stocker ces déchets ? Est-ce qu'il y aurait des méthodes moins pires que d'autres ? Par exemple, j'ai entendu parler de l'entreposage en subsurface, l'enfouissement à sec plutôt que de l'enfouissement dans les piscines. Est-ce qu'il y aurait une solution moins pire qu'une autre ?
Alors, effectivement, on va vous parler de la solution qui est préconisée par les spécialistes de Greenpeace. Il semblerait que Greenpeace ne soit pas la seule ONG partisane de cette solution, qui semble moins pire que l'entreposage à grande profondeur, comme le projet CIGEO, hein, à 500 mètres. Donc effectivement, pour nous, c'est la solution qui est la moins pire, parce qu'elle permettra éventuellement d'avoir accès à ces déchets le jour où éventuellement on aura trouvé une technologie qui permette de les neutraliser de manière plus efficace. Alors que s'ils sont à 500 mètres, on sait très bien qu'au bout de quelques centaines d'années, la réversibilité annoncée est complètement illusoire.
Oui. Et du coup, est-ce que le projet d'entreposage en surface, cela nécessite une surveillance extrêmement accrue, avec des risques de menaces qui existent déjà ? Est-ce que, on voit que Greenpeace souvent dénonce justement la vulnérabilité des stockages en surface, des centrales nucléaires et leur exposition à des potentielles menaces ?
Alors, quand on parle de subsurface, il y a le mot surface, effectivement, mais ça ne veut pas dire que ce combustible ou que ces déchets sont stockés en surface. Ça veut simplement dire qu'ils sont stockés à faible profondeur. On parle d'une dizaine de mètres ou de quelques dizaines de mètres. C'est que ça n'a plus rien à voir avec des profondeurs de 500 mètres. Et l'intérêt de ce stockage à sec, c'est qu'en fait, il est autonome. Il n'a pas besoin, comme une piscine, par exemple, d'avoir une source d'énergie pour refroidir l'eau, pour faire circuler l'eau. Donc, à partir du moment où le combustible a été stocké en subsurface avec ce dispositif de stockage à sec, il est autonome. Il n'y a pas plus besoin de son... Enfin, ça n'empêche pas, ça ne dispense pas d'une surveillance.
Oui.
Mais il n'y a pas de risque de panne d'un fluide ou d'une source d'énergie.
D'accord.
Voilà, donc il y a beaucoup moins de risques.
Oui, voilà. On prend bien. Alors, j'aimerais maintenant que l'on parle de ce qui est propre à la France dans cette gestion des déchets. Il s'agit du retraitement des combustibles nucléaires usés. La France, c'est l'unique pays à continuer une telle pratique, et notamment donc, sur le site de la Hague, comme vous en avez parlé. Donc, c'est un processus que Greenpeace juge polluant, inutile et coûteux, puisque pour une tonne de combustible nucléaire usé, c'est 65 tonnes de déchets radioactifs qui sont créés. Or, d'après la programmation pluriannuelle de l'énergie, cette filière de retraitement est maintenue jusqu'en 2040. Donc Arthur, est-ce que tu peux nous parler un peu de la Hague et puis vous commenterez
Oui, tout à fait, parce que selon le Centre d'énergie atomique, le CEA, qui en a eu la responsabilité durant toute sa phase active, le site de la Manche, donc à la Hague, après 25 ans de bons et loyaux services, figure désormais comme une référence technique internationale dans le stockage des déchets. Alors à l'heure où il est recherché de nouveaux sites de stockage, quelles leçons pouvons-nous tirer de la gestion de ce centre ? Le site de la Manche ne satisfait plus les normes actuelles concernant le stockage en surface parce que le stockage des déchets y a précédé la réglementation en la matière. On y a stocké et entreposé tout et n'importe quoi sur les crêtes des nappes phréatiques et sans aucune protection vis-à-vis des intempéries. Pour les déchets les plus anciens, l'inventaire est des plus fantaisistes et fort probablement en dessous de la réalité. Mais le plus grave, c'est que les centres du CEA se soient débarrassés rapidement de tous les déchets gênants avant chaque durcissement de la réglementation. Alors la commission Turpin l'a bien mis en évidence à propos du plutonium. Ce délit d'initié est extrêmement choquant car c'était dans ce même organisme qu'étaient élaborées les connaissances impliquant de revoir les procédures. Alors comme on dit, pas vu, pas pris, hein. Plus de 10% des volumes stockés sur le centre sont d'origine étrangère, malgré la loi française qui interdit cette pratique. Du fait des éléments à longue vie qu'il contient en grande quantité et les toxiques chimiques, le centre de la Manche est là pour l'éternité. Son statut se distingue donc du centre de l'Aube dont vous parliez, qui ne reçoit que des déchets triés respectant des critères stricts, et s'apparente de plus à ce qu'on pourrait être un stockage souterrain prévu pour accueillir tous les déchets gênants à l'abri des regards, comme il est prévu à Bure. Alors, à cause de sa gestion empirique, le centre Manche porte atteinte à l'environnement selon les associations écologistes, dont Greenpeace. Suite à des incidents à répétition qui viennent s'ajouter à un relargage diffus en continu, les nappes phréatiques et de nombreux exutoires sont fortement contaminés en tritium. Alors force est de constater qu'une information sur cette pollution chronique n'existe pas encore aujourd'hui, un bilan précis de son impact reste à faire. La situation pourrait s'aggraver à long terme car les emballages des déchets les plus anciens, qui contiennent aussi les éléments les plus nocifs, ne sont pas garantis sur de si longues périodes. Alors, des effondrements ont déjà été observés. Lorsqu'une nouvelle contamination sera détectée, il sera trop tard. Cependant, il n'est pas prévu de démanteler ce centre, même partiellement. L'argument généralement avancé, outre le coût économique, est que le risque sanitaire lié à l'opération serait supérieur au risque lié à son impact sur l'environnement. Alors surtout, il n'y a pas d'autre solution pour les déchets extraits qui ne sauraient être acceptés au centre de l'Aube. Il est donc plus confortable pour les opérateurs du nucléaire et les pouvoirs publics de considérer ce problème comme réglé. Mais alors comment léguer alors ce centre aux générations futures ? Comment en transmettre la mémoire si même notre génération ne sait pas ce qu'il contient exactement ? Surtout, comment leur permettre d'avoir une opinion sur son avenir qui diffère de celle qui est prévue actuellement ? Alors cet exemple du centre de stockage de la Manche montre qu'une gestion passive à long terme basée sur l'oubli est vaine. La réversibilité supposée des stockages à venir ne fait que reporter de quelques générations le dilemme de la fermeture sans le résoudre. La protection des générations futures fait l'objet d'un consensus quand il s'agit de gestion des déchets nucléaires. Mais dès qu'il s'agit de la génération actuelle, eh bien le consensus disparaît. Le public est le grand oublié de la loi de 2006 sur les déchets. Si le centre de la Manche est un centre sans mémoire, c'est parce que sa gestion était confinée. Il y a donc un impératif moral à partager avec la population la connaissance sur les déchets nucléaires. Les débats sur le nucléaire ne mobilisent malheureusement pas les foules, car les citoyens ont le sentiment de n'avoir aucune emprise sur le processus de décision. Alors, pourquoi s'investir si les décisions sont déjà prises ? De plus, il importe de transmettre une mémoire qui traduit honnêtement l'état des lieux, ce qui n'est pas du tout le cas du Centre Manche. La démocratisation des processus de décision est indispensable, et c'est dans ce sens que tentent d'œuvrer les associations écologistes comme Greenpeace. Dans les années 2000, la contestation s'est concentrée sur les actions médiatisées de Greenpeace lors du transport des déchets avant ou après recyclage. La sauvegarde des générations futures en matière de gestion des déchets nucléaires passe par une meilleure gouvernance de la gestion actuelle, s'appuyant sur une plus grande démocratie participative. C'est exactement l'inverse qui est appliqué pour la recherche d'un nouveau site de stockage pour les déchets de faible activité à vie longue. Tout est déjà décidé. Cela a conduit à des incohérences. Ainsi, en 2012, la Cour d'appel administrative de Lyon a ordonné l'annulation du permis de construire d'une installation de conditionnement et de stockage de déchets nucléaires dans l'enceinte de la centrale du Bugey à Lyon. En juillet dernier, donc à l'été 2018, Greenpeace a envoyé un drone Superman s'écraser contre la piscine de stockage de combustible usé de la centrale du Bugey, qui est donc située pas très loin d'ici. Que voulait montrer Greenpeace exactement ?
Alors, cette action qui a été menée donc par Greenpeace faisait suite à deux autres actions qui avaient été menées, alors l'une à Cruas et l'autre à Cattenom, si j'ai bonne mémoire. Action qui était destinée à faire prendre conscience au public, à nos concitoyens, que les piscines, donc ces fameuses piscines qui jouxtent les réacteurs, sont vraiment des points faibles dans nos, dans les centrales françaises. Pourquoi ? Ces piscines peuvent contenir jusqu'à deux fois plus de combustible, alors qu'il soit usé ou neuf. Elles peuvent contenir jusqu'à deux fois plus de combustible que ce que l'on peut trouver dans une cuve de réacteur. Et malgré cela, autant la cuve, donc le réacteur lui, est situé dans une enceinte de confinement, donc c'est une espèce de gros panettone en béton avec des épaisseurs de 80 ou 90 cm, avec une peau en acier à l'intérieur, bon, alors, qui présente quand même une certaine résistance, même si d'un point de vue agression par exemple, type avion, on n'est pas sûr que ça résiste. Par contre, les piscines, elles, bien qu'elles contiennent donc deux fois plus d'éléments radioactifs, l'équivalent de deux cœurs de réacteur, elles ne bénéficient pas du tout de cette enceinte de confinement. Elles sont situées, en fait, sous un vulgaire bâtiment industriel. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, EDF a tout à fait pris conscience de cette problématique, puisqu'aujourd'hui, le seul réacteur qui est en construction en France, c'est l'EPR, à Flamanville, c'est ce qu'on appelle le troisième réacteur donc, de Flamanville. Et cet EPR, en fait, il dispose aussi d'une piscine donc de désactivation, et bizarrement, cette piscine de désactivation, pour l'EPR, se trouve à l'intérieur de l'enceinte de confinement. Donc, EDF a bien pris conscience de cette fragilité. Mais, aujourd'hui, il n'est absolument pas question, quand Greenpeace participe au CLI, donc qui sont les commissions locales d'information à la centrale du Bugey, on voit que dans les solutions qui sont présentées pour le grand carénage, enfin toutes les opérations qui sont censées être prévues pour la mise à niveau donc des réacteurs français, on se rend compte qu'en fait pour ces piscines il n'y a rien de prévu. Alors autant il est prévu ce qu'on appelle un cendrier, c'est-à-dire un récupérateur de corium dans ces réacteurs pour récupérer en cas de fusion du cœur ce fameux combustible fondu, mais au niveau de la piscine aujourd'hui il n'y a absolument rien de prévu pour la protéger et la rendre moins vulnérable. Aujourd'hui, vu le contexte, terrorisme, etc., bon, je ne vais pas vous envoyer de quoi je veux parler. Bon, imaginons que des gens mal intentionnés, ne serait-ce même qu'à l'extérieur de la centrale, il n'y a pas besoin de rentrer. Même à l'extérieur, avec des munitions aujourd'hui que certaines personnes pourraient se procurer sur le marché, on va dire, au noir, on pourrait très bien penser qu'on pourrait faire un trou sur le côté de la piscine, que cette piscine se visange instantanément, ou presque, hein, je parle de quelques secondes, et ça veut dire que le combustible qui est à l'intérieur risquerait de se retrouver à l'air libre. À ça, plusieurs conséquences. La première, c'est que le combustible ne sera plus refroidi. S'il est plus refroidi, c'est-à-dire qu'il va se mettre à chauffer. S'il chauffe, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va fondre. On va arriver à des dégagements de radionuclides. Et en plus, l'autre problème, c'est que comme il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de protection contre les rayonnements émis par ces combustibles. Ça veut dire que l'homme ne pourra plus approcher. Et donc, on risque, dans ce cas-là, de se retrouver dans un cas de figure de type Fukushima, c'est-à-dire avec des émissions de radionuclides donc dans l'environnement, sans qu'on puisse vraiment faire quoi que ce soit.
Et du coup, est-ce que vous sentez que toutes ces campagnes de sensibilisation de Greenpeace pour faire prendre conscience au public qu'il est nécessaire qu'ils se mobilisent sur ces questions, est-ce que vous pensez qu'il y a un véritable impact, ou est-ce que ce serait une question justement un peu technique, un peu scientifique, que les gens ont du mal à comprendre et qui expliquerait par exemple qu'il y ait une faible qui existe mais qui est plus faible par exemple contre le nucléaire, une mobilisation plus faible contre le nucléaire que par exemple sur d'autres questions pour la biodiversité ou le réchauffement climatique?
Alors, parmi toutes les campagnes de Greenpeace, je vous cache pas que la campagne nucléaire, c'est pas forcément la plus sexy. Et c'est forcément, elle rebute un peu plus, on va dire, même les militants de base que nous sommes. Il y en a peut-être moins qui cherchent à s'impliquer là-dedans parce qu'ils ont l'impression donc de ne pas pouvoir maîtriser la chose, et enfin en tout cas de ne pas avoir les compétences nécessaires. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas parce que il n'y a pas besoin d'être physicien nucléaire pour prendre conscience des dangers que peut représenter le nucléaire.
Oui.
Hein? C'est pas aux scientifiques de prendre les décisions pour les citoyens. Les scientifiques sont là pour apporter des éclaircissements, des explications. Après, c'est aux citoyens de décider. Et justement, de ce côté-là, les citoyens français n'ont jamais été consultés sur leur opinion, en tout cas sur ce qu'ils pensaient de ce type d'énergie qui leur a été imposé depuis maintenant 40 ou 50 ans.
Oui, on voit qu'il y a un véritable problème de démocratie dans la question de l'énergie nucléaire. Et donc, en avril prochain, aura lieu un débat public sur la gestion des déchets radioactifs. Est-ce que vous en attendez quelque chose, ou est-ce que vous pensez que ça va servir à rien comme le reste?
Eh bien, écoutez, moi j'espère simplement qu'on arrivera à faire passer certains de nos arguments. Et en tout cas, continuer à marteler sur ces fragilités que présentent les centrales. Et en tout cas, pour Greenpeace, aujourd'hui, le point essentiel, alors effectivement, il va bien falloir s'occuper de ces déchets, mais surtout, c'est d'arrêter d'en produire.
Oui.
On a aujourd'hui, très franchement, on n'a pas de solution qui soit entièrement satisfaisante. Et donc, notre revendication, c'est bien d'arrêter d'en produire.
Merci beaucoup Bertrand Nouvelot.
Merci beaucoup
de votre participation sur cette question très épineuse de la gestion des déchets nucléaires.
Non mais j'ai pas envie de dormir, j'ai envie de toi.
J'adore le sexe.
J'adore ça.
Ouais, j'adore le sexe.
On adore le sexe.
J'adore le sexe.
Et moi je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour.
Will you marry me?
Oh, and I was gonna ask you to marry me.
Se calmer là, merci.
Comme je vous dis, je suis en train de me prendre un lourd râteau de ma vie entière.
C'est la Saint-Valentin sur Transistor.
Il est 19h20 sur Transistor. Tout de suite, je passe la parole à Arthur et Martin pour Sens.